Alors on avance, et là, avec l'extrakesh maya, hechma de atamar, on nous cite un verset dans Michelet, ad no atza eretz vechutzot. Il y a l'expression eretz, qui signifie la terre, et chutzot, vous voyez, ce qui est en dehors de la terre. Chutzot, chutz, ça veut dire en dehors. Chutzot seraient les autres planètes, seraient les autres mondes, seraient en dehors du système solaire, par exemple. Amar Rabbi Yehuda et Rabbi Simon, Veshem Rabbi Yochanan. Il avait un enseignement de Rabbi Yochanan, et il a auto le marla mikipat arakia. Dieu a pris Abraham et l'a fait monter plus haut que la voûte du ciel. Houde Amarle. Et c'est ça que le verset a dit, Habetna Hashamaima. Contemple donc le ciel. Voilà l'explication. En Habata, et là, mille marla le matin. Lorsque l'hébreu dit, pour dire contempler, les habit, ça veut dire pas contempler de bas en haut, mais contempler de haut en bas. Et par conséquent, le fait que le texte ait employé le mot les habit, contempler dans ce sens-là, signifie qu'Abraham a été sorti des conditionnements du monde et situé dans une position où il peut maîtriser, où il peut contempler de haut en bas, dépasser ses conditionnements du monde, de telle sorte de pouvoir mieux voir son propre avenir. Rabbanan Amré. Et voici comment nos maîtres, en général, ont parlé de ce problème. Nabiat ve en at astrologos. Regardez bien le texte. Tu es prophète et tu n'es pas astrologue. Ensuite, nous avons un certain nombre de versets qui vont éclairer cela, mais c'est à cette expression que je voulais arriver. De quoi s'agit-il? Tout se passe comme ici. Cette foi préalable dont j'ai fait, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, que les phénomènes humains sont conditionnés par le fonctionnement du monde, eh bien, nous la trouvons au niveau de l'astrologie. Et c'est au niveau éloquique. Il y a un fonctionnement du monde, et il était de l'ordre de la foi naturelle, authentique, de savoir et de croire. Et toute une série de traditions de ce type ont existé, mais ce sont précisément les religions païennes. Sans qu'encore ce terme ne soit négatif, nous verrons en quoi il commencerait par être négatif, et qui étaient les religions astrologiques. Vous savez qu'à part de rares exceptions, les modernes ne comprennent plus de quoi il s'agit dans cette espèce de relation à Dieu à travers l'astrologie. Ça a l'air d'être contradictoire, dit en hébreu, comme ça je parle français. Okay? Eh bien, ça veut dire que selon l'horoscope particulier de cette nation qui s'appelle Abraham, ou de cet individu qui s'appelle Abraham, il n'y a plus fécondité. Et qu'un astrologue compétent aurait pu faire la carte d'identité de la destinée d'Abraham et lui montrer qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Dans d'autres concepts auxquels nous sommes habitués, c'est exactement la notion des fonctionnements naturels du monde à travers les lois de la nature. C'est très exactement le matérialisme philosophique contemporain qui est une sorte de laïcisation de cette mentalité de l'astrologie. Ça veut dire que les phénomènes humains sont gouvernés par des lois. Alors on va employer un vocabulaire, peu importe le vocabulaire, cosmique, naturel, qui régisse aussi l'histoire des sociétés humaines. Et selon l'astrologie, eh bien, Abraham n'a pas d'enfant. Alors Dieu le sort en dehors de sa carte d'identité astrale, si j'ose dire, en dehors des étoiles. Et lui dit, maintenant regarde le monde et tu verras que, comment sera la descendance que je te promets. Est-ce que c'est suffisamment clair? Il y a un effort de déconnexion de la religion naturelle pour aborder la religion d'Abraham et sa foi. Or, ce qu'il faut entendre de nouveau, c'est que cette religion naturelle est authentique à un certain niveau. À la limite, si vous voulez, un astrologue compétent, eh bien, dirait ce que serait le fonctionnement du monde selon les lois que le Créateur a données au monde si le facteur liberté n'existait pas. Or, c'est ce facteur-là qu'il faut que Abraham découvre, que l'on peut se déconnecter des conditions naturelles. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de cette liberté élémentaire qui consiste à pouvoir choisir entre différents conditionnements. Il s'agit d'une liberté au-delà qui déconnecte de tout conditionnement et qui fait la capacité d'être hébreu.
Ce qu'on appelle Italout.
Italout. Italout alma. Al-Hukotateva. C'est-à-dire la foi en Hachem est plus haut, c'est la même, mais elle est plus haut que la foi en Elohim. Et à ce plus haut-là, elle est d'une toute autre nature. C'est-à-dire qu'il y a, premièrement, connaissance des conditionnements naturels et qui ont une signification, il n'y a rien pour rien dans le fonctionnement du monde. Selon ces lois du fonctionnement du monde, on est fidèle à Elohim et stérile. Mais la capacité de dépasser ces conditionnements-là fait la Emouna dans Hachem. Et là, il y a quelque chose, encore une fois, c'est un peu difficile à exprimer, ça s'expérimente spirituellement, mais c'est un peu difficile à exprimer. Deux choses sont corollaires. Cette capacité de foi me rend hébreu. Et c'est l'hébreu qui est capable de cette foi-là. Le fait d'être capable de croire en cela, mais dépasser le mot intellectuel de la croyance, et d'être capable d'exister comme cela, fait que ce soit possible. Et ce n'est que celui pour qui c'est possible, à qui cela arrive. Je ne sais pas comment dire, pourtant les deux choses...
C'est écrit dans son destin.
Alors, comment ?
C'est écrit dans son destin.
Plus fort, c'est pas entendu ?
C'est écrit dans son destin.
Eh bien, justement, c'est le contraire.
Justement, c'est le contraire. Alors là, je voudrais comprendre.
Oui, je vais expliquer. Vous voyez, c'est justement une minute, je voudrais terminer avec ça, très important. Si vous n'avez pas posé la question, je l'aurais posée. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais elle se pose bien. Justement, cette notion de destin, c'est cette notion de la foi astrologique. Et qu'il faudrait ajouter, c'est écrit dans les astres.
Hein,
dans son, c'est en général toutes les traditions de l'Antiquité. Nous sommes familiers à la manière grecque, mais c'était toutes les traditions de l'Antiquité. Et ça veut dire qu'il y a un destin qui est fatal et qui fait que l'histoire de chacun, de chaque être humain, au niveau individuel, au niveau société, dépend d'une carte d'identité qui fonctionne ainsi et pas autrement. C'est les lois naturelles qui font que l'histoire de la Grèce sera l'histoire de la Grèce, l'histoire de Œdipe sera l'histoire d'Oreste en particulier, et alors que l'identité hébraïque est au-delà. Elle peut s'abandonner à cela, elle peut s'abandonner à cela et entrer dans ce même niveau de soumission aux lois du destin, et alors en cela, l'hébreu est redevenu araméen, d'une certaine manière, mais l'araméen préserve la résurrection possible de l'hébreu en lui. Mais ce sont deux niveaux radicalement différents.
Mais si je prends mon destin, l'intention de Dieu...
Alors il faut changer de mot. Il faudrait dire destiné, et non plus destin. Et encore, en attendant dans destiné, quelque chose de différent que ce qu'entend l'islam. Et je voudrais expliquer ces trois termes, si vous voulez. Oui, nous allons prendre les mots dans leur étymologie. En Occident, nous sommes surtout, au niveau culturel, de mentalité gréco-latine. Alors, chez les Grecs, cette notion qu'il y a un destin de fatalité, retenez le mot hébreu de goral, et qui va, goral, pour ceux qui entendent l'hébreu, qui va changer de sens, j'espère, après l'explication. Parce que vous savez, quand on traduit de l'hébreu en grec ou en latin ou en français ou en anglais avec un dictionnaire, eh bien, on donne l'équivalent grec du mot hébreu, mais pas la traduction en grec du sens de l'hébreu. Est-ce que... Or, cet équivalent, c'est tout le contraire. Vous voyez, c'est la même chose, sauf que c'est tout le contraire. Et c'est ça qu'il faut bien entendre. Alors voilà, le mot grec dont je me souviens, c'est le mot de Moira, c'est-à-dire la fatalité avec une espèce de panique tragique, perçue comme tragique. C'est épouvantable que la conscience humaine, qui est une personne, soit confrontée à une carte d'identité impersonnelle. Voilà son horoscope. Vous voyez ? Alors, ça fait peur. Moira. Bon. Et chez les latins, c'est le mot de fatum, d'où vient fatalité. Hein ? C'est-à-dire, c'est encore une fois une loi impersonnelle qui s'impose et aux dieux et aux hommes, dans la mentalité de ces mythes. Okay ? Chez les musulmans, c'est une toute autre notion. Le maktoum, chez les musulmans, c'est pas le fatum, c'est pas la fatalité.
C'est le même mot.
C'est le même mot, mais je vais l'expliquer à travers l'arabe, qui est très proche de l'hébreu. C'est pas la même chose. C'est la décision de Dieu qui fixe mon destin. C'est la volonté de quelqu'un qui a fixé mon destin. C'est pas la loi impersonnelle du fonctionnement des astres. Qui, pour certains idolâtres, était des quelqu'un, les astres. Jupiter, c'est Monsieur Jupiter, bien que ce soit la planète, etc. Okay. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer là. Le musulman est un croyant monothéiste. C'est-à-dire, il vit un destin imposé, mais c'est la volonté de Dieu qui le lui a imposé. Derrière volonté, il y a le quelqu'un avec qui le musulman parle dans sa prière. alors que le romain ne parle pas à son fatum. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est très différent de Maktoub. Dans le résultat, ça ressemble. Le Maktoub musulman et le fatum latin, ou la moïra grecque, ou la fatalité occidentale, du matérialisme historique, par exemple. Okay. Mais il y a une grande différence. C'est que derrière le Maktoub, il y a quelqu'un qui a voulu que ce soit comme ça, c'est le dieu des musulmans, si vous voulez, alors que dans l'univers du paganisme, il y a le vide absolu de l'impersonnel. Et c'est pourquoi il y a cette espèce d'expérience tragique de la rencontre du destin. Mais pourquoi nous ne pouvons pas, même en français, employer le mot de destin? Ça ne traduit pas le mot de Goral. Là, ce qui avait été proposé par madame, c'est le projet du créateur pour moi. Et qui, c'est pourquoi je préfère dire destiné, dans le sens de je suis promis à quelque chose et à l'intérieur duquel je suis libre. Je suis libre pendant un temps X. Et puis en fin de compte, c'est ce que Dieu a promis pour moi qui finira par se réaliser. Ou bien ça se passe avec aisance, parce que ma liberté coïncide à ce projet, ou bien ça se passe dans les catastrophes, parce que j'utilise ma liberté à m'opposer à ce projet, mais ce projet me fera quand même. C'est-à-dire que, vous voyez, pas du tout.
Ah, tu dis c'est le projet, il faut qu'il se projette.
Oui, non, c'est-à-dire là, nous sommes plus proches de ce que dit l'islam que de ce que dit le paganisme. J'explique. Mais je sais que ce projet, c'est le projet de quelqu'un qui est le Dieu créateur, et donc le contenu de ce projet n'a plus rien à voir avec cette espèce de mécanisme impersonnel, de carte d'identité astrobiologique que me présente l'astrologie. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair la différence? Je sais que c'est le Père qui me parle, alors que à travers le Fatum, ce n'est pas le Père qui me parle. C'est la monstruosité de l'impersonnel qui s'impose à moi.
Puisque Fatum, ça veut dire... Par quoi
par le dire des oracles qui transforment en parole humaine une loi impersonnelle.
C'est l'ordinateur.
Oui, oui. Et l'ordinateur peut parler, mais à travers l'homme. Rappelez-vous une minute. C'est deux termes du Midrash et nous allons partir de là. Une minute. Verabban Anamré, voilà comment on enseignait les maîtres, que Dieu dit à Abraham, est-ce que tu es un prophète ou un astrologue? Alors essayons d'entendre la grande différence. Vous comprenez, une minute. Et là, nous sommes renvoyés à un point que j'ai touché hier soir, et très important, c'est qui est la notion de révélation. Okay. S'il ne s'agit pas d'une inspiration de l'oracle, où c'est l'homme qui parle, en traduisant le langage des arts, mais tout ça c'est une façon de parler, okay. Il s'agit de l'écoute d'un message qui est dit par quelqu'un qui se présente comme étant le créateur du monde. Et c'est au temps hébraïque, ceci ne faisait pas problème. Au temps hébraïque, au temps où la révélation était historique et expérimentale, ceci ne faisait pas problème. La parole de Hachem, c'est quelque chose, c'est une notion qui est évidente pour tous les contemporains des Hébreux. Il faut l'entendre dans la familiarité, une familiarité suffisante avec le texte de la Bible. Nous vivons au temps où, il y a très longtemps, cette parole prophétique s'est arrêtée et nous raisonnons comme si elle n'avait jamais eu lieu. Et nous opérons une réduction avec la parole de l'oracle. Mais il y a une réduction illégitime. Il s'agit, la parole du prophète et la parole de l'astrologue ne sont pas de même nature. L'astrologue dit ce qu'il voit dans les lois impersonnelles du fonctionnement du monde, alors que le prophète dit ce que quelqu'un a dit. Voilà la grande différence. Mais quel était le point duquel nous sommes partis avec la notion de destin? C'est ceci, c'est que le destin est fatal et le fonctionnement de ce destin ne laisse place à aucune espérance. Okay. D'où
Goral. Est-ce qu'on ne peut pas remplacer destin par vocation?
Si vous voulez, si vous voulez. Mais c'est une vocation non pas au niveau des actes, mais au niveau de l'être. Yes. Oui. J'ai pas entendu. Écoutez, le libre arbitre, c'est, je traduis de l'hébreu si j'ose dire, c'est la liberté au niveau élémentaire qui consiste à être libre de choisir entre différents conditionnements possibles. C'est ça le libre arbitre. La liberté de choix entre différents conditionnements possibles. Alors que la liberté, ça s'appelle la bechira en hébreu. Alors que la liberté dont il s'agit ici, c'est d'être libéré de tout conditionnement. Et vous voyez comment s'exprimait le Midrash, être sorti en dehors du monde. C'est cela l'apprentissage de l'être hébreu. La notion de salut, Géoula, en hébreu, la Géoula, c'est délivré de tous les conditionnements. Alors vous me direz, avec juste raison, mais c'est un rêve tant que le monde est le monde, la réalité. Bien sûr, c'est ce rêve-là qu'ont rêvé les Hébreux, et à travers ce rêve-là, l'humanité entière a entendu l'espérance de cette délivrance. Mais elle n'ose pas y croire. Elle n'ose pas y croire. Parce qu'effectivement, il y a cet invraisemblable de l'opposition à la réalité. Nous sommes encore conditionnés, et voilà qu'on nous parle d'un message qui parle de la libération de tout conditionnement. Mais j'espère que vous savez suffisamment à quel point l'histoire juive, l'histoire d'Israël, est précisément obéie à cette perspective. Elle est incompréhensible dans la mesure exacte où elle n'est pas soumise aux lois qui expliquent les conditionnements de toutes les autres sociétés. Je pense que c'est suffisamment. À partir de ce moment-là, employer les termes de miracle pour parler de ce qui se passe dans l'histoire d'Israël, ça n'est plus qu'une façon de parler qui implique énormément de confusion sémantique. Okay? C'est un tout autre ordre d'histoire qui traverse l'histoire conditionnelle. Et à des niveaux d'évidence, bien entendu.
Est-ce que je peux demander...
Je vous écoute.
Je propose des rapports entre Abraham et Sarah. Est-ce qu'il est possible qu'il n'était pas capable de sa croyance convaincre Sarah en fait miracle, tandis qu'elle arrive. Enfin, elle a donné même le nom du chat.
Si vous voulez nous prendre ça peut-être plus tard. Si nous en avons l'occasion, parce que ça prendrait trop de temps. Mais un mot que je retiens de votre question et qui me montre que je n'ai pas été suffisamment clair jusqu'à présent, c'est le mot de croyance. Okay? Bien, il ne s'agit pas de croyance à l'échelle intellectuelle. Il s'agit d'une certitude qu'il doit en être ainsi, mais la réalité est contre. Et en réalité, la réponse c'est que, qui nous est donnée par le Midrash, c'est que ce qui empêche la fécondité d'Abraham, c'est le lieu où il se situe. Abraham, en Mésopotamie, est incapable de fécondité, il faut qu'il revienne au pays de Canaan pour redevenir fécond, et il faut tout ce temps pour passer du niveau Abraham à Abraham, mais ça doit se faire dans un certain endroit du monde. C'est lié, après tout, en termes astrologiques, à la maison dans laquelle on se trouve, en termes astrologiques. Vous voyez ce que je dis ? La Gemara est très claire. Là où tu es, Abraham, tu n'as pas d'enfant. Viens là où je te donne rendez-vous, là-bas tu auras un enfant. Mais encore une fois, il faut l'entendre, pas petit d'homme, mais la suite des engendrements. Je pense que ça a été maintenant suffisamment éclairci. Gardez cette feuille, nous aurons l'occasion de la retrouver lundi. Alors il nous reste une demi-heure, si vous n'êtes pas trop fatigué, on ne fait pas d'interruption et on continue jusqu'à midi. Okay? Ça vaut mieux. Hein? Demandez peut-être pour moi, c'est un demi-verre d'eau, quelque part, si c'est possible. Et puis, nous allons maintenant aborder le texte de Nachman. J'espère qu'une demi-heure nous suffira pour arriver à le lire.
On peut un peu déborder, c'est pas rien.
Comment ?
On peut un peu déborder.
Je sais pas. Alors voilà, Narmanide commence par citer le commentaire de Rashi. Et ensuite, il va apparemment s'y opposer. Alors, je vais lire directement le commentaire de Narmanide. Vous l'avez donc dans cette deuxième page-là. Vous voyez, là, il y a le texte de la Bible et là, les commentaires. Ce commentaire-là, Ramban. Oui, c'est très très mal coupé, mais j'espère que lundi, vous aurez de meilleurs textes. Et en tout cas, essayez d'entendre à la lecture. Alors, vous mettrez ces deux explications en plan, si vous voulez, dans vos notes. Vous arrivez à m'entendre suffisamment, même si je suis assis. Alors, Nachmani dit ceci. Pirash Rashi. Rashi a expliqué de la manière suivante. À Kadosh Baruch Hu, tout au début, en haut. Hein? Ah, vous avez peut-être des textes qui manquent. Bon, mais vous réintégrez. Alors, Vélin Bachem, Rachivalot Zaka. Bon, prenez le texte là où vous l'avez. Perash Rashi. Rashi a expliqué de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu, Dieu, Hashav Lo Tzedaka Uzrut, Dieu a imputé à la foi d'Abraham, le fait qu'Abraham a cru, Dieu l'a lui a imputé en mérite et en mérite, Tzedaka Uzrut, ici le fait d'être sadique, d'être juste, Uzrut, c'est le mérite, à la Emuna Shehemin Bo, en ce qui concerne la foi qu'Abraham a eue en lui. Voilà donc comment il faut lire le verset d'après Rashi. Abraham eut